un Sport Matin Dimanche qui durera un petit peu plus que 120 secondes. Vous le comprenez bien, une riche actualité. Vous avez entendu les prénoms de tous les acteurs qui vont venir se confier sur les ondes de Colline, sur notre, à notre micro pour ce Sport Matin Dimanche, avec des résultats aussi de foot, de basket, de hand, de cross et de rugby. On commence par l'actualité footballistique. Alors, actualité footballistique, pas que. On a notre premier invité dans ce studio, c'est Arthur Poincet. Arthur, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup de passer nous voir dès ce matin. Je me faisais le rappel du calendrier. On s'est entendu une première fois fin août sur les ondes de Colline. On s'est revu pour un Sport Matin Dimanche spécial Octobre Rose. C'était justement le dimanche 1er octobre. Et on s'est retrouvé le 30 octobre dernier pour cette grande marche sur Cerisay. Et aujourd'hui, ce dimanche 8 janvier, on est là pour faire le bilan. La somme a été annoncée, il y avait réception samedi matin. Arthur, qu'en est-il de ce bilan de cette marche rose du 30 octobre dernier?
Mais déjà, si on parle humainement, c'est un événement qui a dépassé largement nos attentes. Parce qu'on a accueilli 1450 personnes à Cerisay pour cette première édition de Cerisay en rose. Donc c'est un chiffre qu'on n'attendait pas du tout. Pas du tout.
On se rappelle, alors ça remue un petit peu, mais tu en es l'instigateur et t'as un parcours de vie qui force le respect, Arthur.
Ouais, bien sûr. Moi, j'ai une histoire qui est particulière par rapport au cancer. Moi, mes parents étant tous les deux décédés, chacun d'un cancer, ma mère du cancer du sein. Donc c'est pour ça que cet événement Octobre Rose comptait beaucoup pour moi. Et voilà, ça a apporté ses fruits de manière très, très, très significative.
Et Arthur, vous l'avez compris à sa voix, hein, c'est un jeune.
Hein. 24 ans.
Alors, succès populaire avec cette belle color.
Color party à la fin qui était vraiment sympa. Ouais.
C'était bien sympa. Cet échauffement, cette marche ou même cette course.
Tout à fait.
Avec deux circuits qui étaient proposés pour les uns et pour les autres.
Exactement.
Et puis il y avait aussi l'aspect financier.
Bien sûr, tout à fait. On n'a pas fait ça pour rien, bien évidemment. Le but, c'était de récolter un maximum de fonds pour la Ligue contre le cancer. Donc voilà, j'ai animé une petite réception hier matin à la salle de la Griotte à Cerisay. Et j'étais heureux avec le comité de pilotage qui m'a aidé pendant ces longs mois de donner la somme de 14 000 euros à la Ligue contre le cancer. Donc 14 000 euros qui iront en direction de la recherche médicale. Voilà.
C'est pas rien, hein?
C'est pas rien. C'est un très, très, très beau chiffre. On s'attendait pas du tout à récolter autant d'argent. Donc, on est très, 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 très fiers.
14 000 euros. Il y a forcément une suite, Arthur?
Bien sûr. On l'a annoncé aussi hier. Voilà, j'ai joué un petit peu le suspense, même si, les retours étaient très, très positifs sur la première édition. Donc, voilà, les gens peuvent prendre leur agenda et puis noter le dimanche 29 octobre 2023 pour la deuxième édition de Cerisay en rose.
Avec plein d'associations qui vont se fédérer, comment ça va s'organiser?
Exactement, voilà, on va être sur à peu près la même organisation. On a déjà quelques petites idées pour améliorer l'événement. On pense surtout aux personnes à mobilité réduite et puis aux poussettes. Parce que voilà, on avait deux parcours de marche qui étaient assez longs, on avait 10 et 14 kilomètres. Donc là, on a le projet de faire un parcours un petit peu plus petit, donc accueillir un petit peu plus de monde. On a aussi des idées pour récolter un peu plus de fonds aussi. Donc voilà, il y a des idées, le projet, se nourrit petit à petit d'idées et puis au fur et à mesure des années on va venir les apporter.
Ça veut dire qu'on va commencer à en parler précisément quand là pour cette date du 29 octobre on laisse passer ce début d'année.
On va laisser passer ce début d'année. On a quand même hier montré une petite vidéo que personne n'a vue. Voilà une petite vidéo récap qu'on va poster sur nos réseaux sociaux. On va rester aussi actif sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent continuer à nous suivre et puis on a pas mal de photos aussi de l'événement donc on va les poster au fur et à mesure. Et puis à partir du mois de mai, du mois de juin, on va commencer vraiment à parler du 29 octobre 2023.
Mais d'ores et déjà, sur vos nouveaux beaux calendriers 2023, vous avez coché la date du dimanche 29 octobre 2023 pour cette édition Octobre Rose à Cerisay. Cerisay en rose, ce sera donc la deuxième édition.
Exactement.
Merci beaucoup Arthur, on parle un petit peu de foot quand même parce qu'on est obligé. Match vendredi soir, ça y est, c'est la reprise tranquillement là.
C'est ça exactement, on a repris l'entraînement cette semaine.
Avec le Cerisay, là, ouais.
Bien sûr. On a repris l'entraînement cette semaine et puis voilà, un groupe élargi a joué un match amical contre Pierre Jantonnet vendredi soir. sur notre synthétique. Et puis voilà, il y a encore un deuxième match amical qui arrive pour l'équipe première le vendredi 13 janvier. Et puis la Coupe des 2F pour l'équipe réserve dimanche 15. Donc voilà, le retour de la compétition pour la réserve. Et puis le 21, tout le monde sur le pont pour la reprise du championnat.
Est-ce qu'on a eu le temps de refixer des objectifs?
On reste dans la même lignée que ce qu'on s'était dit en début de saison. Les deux premières équipes, que ce soit la première en R3 ou la réserve en D2, sont bien placées. Voilà, donc c'est objectif maintien pour tout le monde forcément cette année avec les réformes qui arrivent. Voilà, on est bien placé, on espère continuer et puis voir plus si affinité, hein, comme on dit. Et c'est plus notre troisième équipe qui est un peu plus en souffrance et puis qu'on va aider à se maintenir en troisième division.
29 octobre 2023, la deuxième édition d'Octobre Rose. La première a été un véritable succès populaire. On a dit combien de participants ?
1450.
1450. C'est vrai que la jauge était à 1500. Hein.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, tout à fait.
On était juste du poil. Les 14 000 euros, c'est pas rien. Les 14 000 euros qui ont été récoltés à l'occasion de ce bien bel événement. Merci, Monsieur Poincé.
Avec grand plaisir, Monsieur Nourry.
Allez, à très vite. Merci,
à très vite, à bientôt.
Arthur Poincé, donc, pour nous parler de cette édition. On reste dans le monde du foot avec l'événement hier soir. On parlera de la Coupe de France, bien sûr, tout à l'heure, notamment avec Charles Devineau. Le match de R1, le match à rejouer entre Choret et Bressuire avait lieu hier soir. La rencontre qui s'est soldée sur le score de parité, un but partout. Jean-Michel Bernier, notre œil expert, était à assister à cette rencontre. On lui laisse d'abord le soin de décrypter ce match nul.
Choret-Bressuire 1-1, avec deux mi-temps très différentes. Une première mi-temps, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, une domination territoriale et physique de l'équipe de Choret, concrétisée par un but à la 20e minute, sur une de nos rares occasions, tir lointain de Loret, le gardien de Choret se trouve, en fait, trompé sans doute par un coup de vent, et but pour Bressuire 1-1. Alors que Choret aurait pu logiquement mener peut-être 2-0. Deuxième mi-temps complètement inversé, puisque Bressuire a physiquement pris le pas sur les joueurs de Choret. Beaucoup d'erreurs techniques dues sans doute à la mauvaise qualité du terrain. Et puis très très peu d'occasions de but en deuxième mi-temps. Donc un match nul, 1-1, logique sur l'ensemble du match.
Voilà l'œil de Jean-Michel sur cette rencontre. Et ensuite Jean-Michel a promené son micro dans les vestiaires des deux camps. Il est d'abord allé interroger Jérémy Delaine, le coach chorésien.
Ouais, c'est un bon match nul. On a eu une bonne première mi-temps, deuxième mi-temps un peu plus compliqué physiquement. Le terrain était un peu plus lourd, dégradé. Je pense qu'on manque le coach en première mi-temps. Si on mène 2-0, je pense que c'est un autre match. On fait une petite erreur sur le but. Le placement, et derrière, ça se paye cash parce que c'est une très bonne équipe. Ouais, donc, un bon match, on aurait peut-être fini pour un match nul. On reste invaincu. On finit la petite bonne de chemin, tranquillement.
Ouais, on continue notre bonhomme de chemin. Ça va être un sacré mano à mano hein, entre Choret et Bressuire. Les réactions maintenant dans le camp bressuirais avec un Patrick Olive qui était suspendu. C'est Jérôme Degnaud qui était donc le coach, notre ancien consultant, tiens, qu'on salue ce matin. Jérôme, eh bien, qui était plutôt content de l'opération d'hier soir.
Ça fait plaisir, même si j'aurais préféré que ce soit Patrick. Hein, malheureusement, bon, il a été suspendu ce soir. Mais en tout cas, j'étais juste le relais entre les joueurs et lui hein, pour passer les messages ce soir. Voilà. Donc c'est vrai que c'était une expérience intéressante. Et bon, le fait d'avoir ramené le point du match nul, on est satisfait. On a produit quand même une belle partie avec du jeu, même s'il y a eu des moments difficiles. Mais en tout cas, le match nul est logique ce soir.
Le match nul logique, vous vous rappelez. Hein, c'est ce que nous avait dit en ouverture Jean-Michel Bernier. Et enfin, le dernier de nos invités, c'est Patrick Olive, qui était juste derrière la main courante, mais qui lui aussi, finalement, se satisfait de ce score de parité.
Conditions particulières depuis le début avec le report, le match arrêté à la mi-temps et puis les conditions climatiques aussi avec la grosse pluie sur la première mi-temps où le terrain était compliqué. Donc j'étais inquiet physiquement, de peur de blessure et tout ça. C'est quand même un match de reprise et c'est un match au sommet, donc il fallait bien reprendre, préparer la suite mais aussi être performant tout de suite. Et on a été en difficulté en première mi-temps et puis je pense qu'on a pris le dessus physiquement et techniquement en deuxième mi-temps, et bon, sans être trop non plus dangereux, mais voilà, nul à l'extérieur chez le deuxième. Moi, ça me va. Après, il faudra être bon sur la suite du championnat aussi.
Une équipe de Choret qui compte des matchs en retard. Les Bressuirais sont toujours leaders, mais donc ce beau duel entre Choret et Bressuire va se poursuivre tout au long de ce premier, de cette première partie d'année 2023. La Coupe de France, elle est au programme. Ça passe pour les Chamois-Niortais. Il est vrai que Granville, tiens, Granville, c'est le petit Monaco. Hein, on l'appelle le petit Monaco de la Manche. C'est une très très belle cité. C'est aussi la cité de Christian Dior. D'ailleurs, le stade s'appelle Stade Christian Dior. Les grands Villais qui ont joué à 10 pendant une demi-heure. Il y a eu un carton rouge à l'heure de jeu quasiment. Et les Chamois qui passent avec cette qualification 3-0. Olétang par deux fois, le réalisateur 57e et 70e. Et puis Merji aussi qui marque. C'est bien pour le moral, pour cette équipe des Chamois Niortais qui.
Championnat, même 3, parce qu'on va rentrer en Coupe des Pays de la Loire contre Fontenay dans 8 jours. Donc, je l'espère donner un maximum de temps de jeu à l'ensemble du groupe.
Ouais, j'allais y venir, hein, le parallèle avec le championnat. Le bon parcours en coupe n'a pas porté préjudice, hein, en championnat.
Non, pour le moment, on a plutôt pas mal rebondi à chaque tour et après chaque tour de Coupe de France. On a réglé quelques problèmes en championnat. Maintenant, on a fait que la première partie de championnat, on n'a fait que 8 matchs, hein, il nous reste 14 rencontres. Mais c'est vrai que sur de juillet à décembre, c'est plutôt que du bonheur, voire même un rêve, tout ce qui nous arrive.
Alors, en face, dimanche, Lorient, qui a réalisé un très bon début de saison, qui a gagné à Angers le week-end dernier. Vous y étiez peut-être, hein, pour les superviser?
Non, il y a tellement d'écart entre ce que eux proposent et nous, ce qu'on pourra faire, que j'évite aussi de trop me faire peur. On va prendre 2-3 généralités, comme j'ai l'habitude de dire, et puis bosser dessus sur ce qu'eux peuvent présenter et ce sur quoi ils peuvent nous mettre en danger. Mais non, là, c'est eux, ils ont une dynamique impressionnante qui pourrait juste être comparée à ce que nous on fait, mais ils le font en Ligue 1, quoi, et nous on le fait en R1. Voilà, ils ont réussi leur début de saison, nouveau coach qui est arrivé, qui a mis sa patte sur ce groupe. Bon, tant mieux, bravo à eux. Maintenant, là, c'est le match d'une vie, hein, c'est le match d'un exploit, c'est là-dessus qu'on va se brancher.
On sait qu'en foot, tout est possible, hein, mais R1, Ligue 1, le fossé semble effectivement infranchissable, mais on ne sait jamais.
Comme on dit, on va le jouer 9 fois sur 10, on va le perdre, et puis il y a peut-être une fois, on va pouvoir les accrocher, donc... Je m'évertue à ce que cette seule fois où ce serait possible, à mettre les ingrédients dedans.
Charles Devineau, donc, le rendez-vous, c'est cet après-midi, 15h30 au stade Henri Desgranges. Réaction ce soir dans Sport Dimanche Dernière. Alors peut-être pas dès 18h, hein, parce que 15h30, vous voyez bien le temps, la durée du match. Imaginons une séance de tir au but, mais il y aura réaction ce soir ou bien demain matin sur les ondes de Colline. On parle de Coupe de France avec les Herbiers, hein, qui ont un bon coup à jouer pour se qualifier pour les 32e, pour les 16e, pardon, les Herbiers en déplacement à Pontivy cet après-midi. La pause pub, mon cher Hugo, ensuite on continuera avec le football, la Coupe de Nouvelle-Aquitaine, et puis on ira retrouver notre rubrique supporter d'un jour, supporter toujours, Sylvain Bertrand, supporter de Marseille, qui s'est offert un super cadeau de Noël. On espère que vous passez un excellent dimanche matin. Le SMD avec les premiers résultats. On vous rappelle qu'en R1, eh bien, Choret et Bressuire ont pu se départager hier soir, un but partout. On avait pas mal de réactions. Des réactions, vous retrouverez tout à l'heure sur notre site colline-laradio.fr. La rediff, c'est tout à l'heure à 13h. On avait les coachs, bien sûr. On avait aussi l'œil de Jean-Michel Bernier. Côté Coupe de France, Charles Devineau nous a confié ses impressions aussi avant la rencontre de cet après-midi à La Roche-sur-Yon. La Châtaigneraie, club de R1, qui joue face à Lorient. Et puis Arthur Poincet, passez nous voir également. Arthur, l'un des éducateurs du CO Cerisay Football, qui avait organisé Octobre Rose le 30 octobre dernier et qui est venu annoncer la très belle somme récoltée à l'occasion de ce premier événement, 14 000 euros. Il nous a aussi invité pour la deuxième édition. Vous notez sur votre calendrier le 29 octobre prochain pour cette deuxième édition. Résultat de coupe, on passe de la Coupe de France à la Coupe de Nouvelle-Aquitaine, en vous rappelant que les Chamois se sont qualifiés 3-0. Coupe de Nouvelle-Aquitaine, le 6e tour, 3/5 ce matin. C'est la note pour nos équipes de Sévrienne. Vrines s'est qualifié à Nintré, 3-1. L'élimination de Saint-Florent face à Chauvigny, 1-1, 4-3 pour la réserve de Chauvigny. Le FC Autis qui a perdu face à l'équipe 2 de Neuville, 4-1. Ça passe au tir au but pour Montcoutan en déplacement à Saint-Benoît, 5-4 pour les Montcoutantais. L'Avenir 79 se qualifie à Saint-Palais, 4-1. Le match entre Verdier et la Venise Verte n'a pas eu lieu. Les autres rencontres, c'est pour cet après-midi. Les résultats ce soir à partir de 18h. Allez, on va retrouver notre rubrique supporter d'un jour, supporter toujours, Sylvain Bertrand, l'entraîneur de Voulmentin-Saint-Aubin, l'ancien adjoint de Xavier Bonneau sur le banc du FC Bressuire, est lui supporter de l'Olympique de Marseille. Il nous explique pourquoi.
En fait, c'est la Ligue des Champions 91 dans un premier temps, la finale, puis après 93. Donc j'avais en 91, j'avais 10 ans. Et mon frère supporter de l'OM aussi, donc depuis tout petit, quoi.
C'est de là qu'est venu, et maintenant tu les suis à fond.
Ouais, je les suis. Alors j'y suis allé une première fois au Vélodrome en 2003. C'était les 10 ans de la Ligue des Champions. Donc il y avait Basile Boli à l'époque qui était venu à la mi-temps avec la coupe. Et là, j'étais pas retourné depuis. Et donc là, j'y suis retourné pendant les vacances.
Il y est retourné pendant les vacances, Sylvain, et il s'est offert un sacré cadeau de Noël.
C'était donc Toulouse, entre Noël et Pommier de l'An. Donc 6-1, un super match. On a vu des buts, on était bien placés, c'était top, une super ambiance. Donc c'était vraiment, vraiment bien.
Et puis après, alors le vraiment bien qui se prolonge.
Oui, en fait, c'est un pote de lycée que j'ai retrouvé, on s'était pas vu depuis 22 ans, et que j'ai retrouvé au mois de novembre, et qui habite sur Marseille. Donc il nous a invités au match, et après le match, on est allé manger dans une pizzeria, et là, il me dit, il y a souvent les joueurs de l'OM qui viennent dans cette pizzeria.
Et alors, vous êtes allé à la pizzeria parce que c'est une bonne pizzeria, ou parce qu'il y avait les joueurs de l'OM?
Parce que c'est une bonne pizzeria, à la base, et parce que moi, je le savais pas, et c'est quand on était dans la pizzeria, il me dit, il y a souvent le joueur de l'OM qui viennent ici. Et donc on était installés, il y avait une table ronde juste à côté de nous, et là qui c'est qui arrive, le président de l'OM avec tout le staff, quoi. Donc je suis allé voir, on est allé voir, parce qu'en plus mon pote connaissait des gens du staff, donc je suis allé voir Pablo Longoria, quoi.
Là on est tout gamin, on est tout heureux.
Ah ben ouais, même mon frangin qui était avec moi, donc qui est plus âgé, il était hyper content de le voir aussi, quoi. Puis bon, c'était le bonjour, parce que l'OM avait fait un bon match, 6-1, donc c'était plus facile, quoi. Il était abordable, il n'y a pas eu de soucis, quoi.
On a échangé un peu avec lui.
Ouais, rapidement, on voulait pas trop les déranger non plus, quoi.
Pas de match prévu à Voulmentin?
Non, pas prévu ça.
Sylvain qui a donc apprécié le 6-1 marseillais face à Toulouse, qui a apprécié la pizza marseillaise, qui a apprécié cette rencontre et cette petite photo avec Pablo Longoria, et qui a aussi aimé le stade Vélodrome.
L'OM, c'est pas trop mal cette année. Donc oui, on va les suivre encore plus, quoi. Et j'aimerais bien y retourner. Maintenant, le pote qui est sur Marseille, donc pourquoi pas y retourner, ouais.
Et ce stade alors?
Magnifique. Magnifique. Donc moi, je l'avais vu en 2003, donc c'était l'ancien. Et là, le nouveau, c'est. Il est énorme, quoi. Plein, super ambiance. Enfin, c'était. Puis nous, on était vraiment bien placé. On était juste derrière le banc de l'OM au 10e rang. Donc, c'était vraiment. Magnifique, l'ambiance autour du stade, le parvis, enfin c'est le feu, quoi.
Ouais, ils sont trempés foot. Hein.
Ah ouais, c'est impressionnant. Et puis, ce que me disait le pote, enfin, il n'y a jamais trop de dégâts là-bas. Ils vivent le foot à fond, quoi.
Vin Bertrand, qui est aussi, on l'a dit, l'entraîneur de Voulmentin-Saint-Aubin, une équipe avec une équipe Fagnon en 3e division, une réserve en 4e et une autre en 5e. C'était aussi l'occasion de faire le focus sur cette première partie de saison avec Sylvain.
Pas trop mal, on est troisième au classement. Il y a Saint-Sauveur qui est au-dessus, hein, je le savais un peu. Et après, voilà, on va essayer de jouer notre place. Rester sur le podium, ça serait pas mal. Mais l'objectif, c'est de prendre du plaisir.
Et ça se passe bien. La réserve fait une bonne saison. Là, ils sont troisième aussi, donc c'est mieux que la saison dernière. Et puis l'équipe 3 a fini cinquième, donc va jouer le premier niveau pour la deuxième phase. Donc c'est.
Et en termes d'investissement, parce que souvent on se dit dans les clubs ruraux, les gars ils viennent pas toujours s'entraîner, etc. Tu dis quoi, toi, coach?
Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas énormément de monde à l'entraînement. J'ai pas 40 mecs, mais j'ai toujours entre 15 et 20 joueurs. Donc bon, ça va. On arrive à s'entretenir. On fait deux séances semaine. Et puis ça se passe, c'est convivial, bonne ambiance, donc c'est pas mal.
La belle histoire, c'est l'une des histoires qu'on vous raconte ce matin dans ce Sport Matin Dimanche, notamment celle de Sylvain Bertrand avec cette rencontre, ce grand supporter de l'Olympique de Marseille qu'il est, avec son club notamment de Voulmentin Saint-Aubin. On parle de basket également dans ce Sport Matin Dimanche, on aurait pu chanter et ça continue encore et encore pour l'actualité de Cholet Basket, puisqu'hier soir les Choletais se sont imposés face à Nanterre 84 à 78, une victoire qui a été un petit peu longue à se dessiner, mais l'essentiel est bien la victoire. Il y avait une fan zone qui avait été organisée sur un site choletais. François Larue, en supporter de Cholet Basket, y était. Et à l'issue de la rencontre, il a interrogé Nils Sacco. Bah oui, parce que Nils Sacco, l'intérieur, est blessé. Il est d'ailleurs remplacé par le pigiste médical Darrel Poirier. Et François a tendu son micro à Nils Sacco pour savoir un petit peu ce qu'il avait pensé de ce match et puis comment ça allait au niveau de son genou.
Début d'année idéal avec cette victoire à Nanterre qui est jamais facile à décrocher là-bas à Nanterre. Ils ont eu quelques moments où ils ont un peu pris feu à 3 points, mais ça n'a pas été trop, donc c'est super de revenir avec la victoire sur le Cholet.
Et c'est de bonne augure avant la réception de Monaco, ça met en confiance.
Ouais, c'est sûr, ça met en confiance. Après, il y a quand même le match de Porto entre les deux, qui est un match important aussi en FIBA Eurocup, mais ça met en confiance pour la suite des matchs et ce mois de janvier qui arrive.
Et toi, donne-nous de tes nouvelles, Neil, comment ça va?
Bah écoutez, moi ça va, je suis en rééducation là actuellement à Cholet, c'est pour ça que je suis resté. J'espère revenir au plus vite sur les parquets.
La semaine est importante à venir pour les hommes de Laurent Villa, vous l'avez compris, il y a déplacement en Coupe d'Europe à Porto ce mercredi et ensuite dimanche prochain à 18h, la rencontre face à Monaco. Ce sera une rencontre au sommet à suivre bien sûr sur les ondes de Colline avec des places à remporter. Hein. Vous pouvez déposer vos coordonnées sur notre site colline-laradio.fr. Rencontre dimanche prochain à 18h, les Choletais qui sont pour leur deuxième et Monaco qui joue cet après-midi face à l'équipe de Pau-Orthez. Et puis comment les Parisiens voient-ils ce parcours des Choletais? Alors quand je dis les Parisiens, ce sont les journalistes parisiens. On a interrogé, c'était juste après la rencontre face à Limoges le 27 décembre dernier, Amaury Perdriau qui est journaliste basket au sein du quotidien l'équipe. On lui a posé la question, ben voilà, comment depuis la capitale est-ce qu'on voit ce parcours des Choletais, l'analyse d'Amaury Perdriau.
C'est une vraie surprise sur l'année parce que quand on les voyait l'année dernière au fond du tunnel même depuis Paris, on avait des échos plutôt négatifs, les questions c'était bon, quand est-ce qu'on va à Cholet pour faire un papier sur quand est-ce que Laurent Villa saute, est-ce que la direction est la bonne, et finalement les voir jouer notamment en play-off contre l'ASVEL où ça a été loin d'être ridicule, hein. Évidemment il y a la remontée, mais moi je suis venu à Cholet pour les voir contre l'ASVEL et ça passe à tellement peu de choses. On se dit il y a un état d'esprit qui a peut-être été mis enfin en place dans ce club sur une période post-Counter, hein, qui est quand même une légende dans le coaching à Cholet. Voilà, je pense que le plus difficile c'était de restituer cet état d'esprit à cette saison-là, et ce qui se dit voilà dans le club assez régulièrement, c'est que le fait de trouver cette équipe de 10 joueurs là dès le début de la saison, d'avoir créé une alchimie, un collectif, ça se voit sur le terrain, que ça respire la bonne ambiance. Moi j'ai croisé Dominique Cartis à Cholet dans les rues, qui s'apprêtait à accueillir sa famille, qui vient me rejoindre à Cholet. Voilà, on sent que finalement les joueurs s'imprègnent de l'ambiance de la ville, savent qu'ici il y a le microcosme basket, c'est indéniable, c'est la mairesse, c'est l'épicentre du Choletais. Je pense que c'est ça qui a pris cette saison, dans une saison un peu surchargée, de jouer la Coupe d'Europe. Moi je craignais que ça soit trop, voilà, parce que effectif assez court, mais comme il n'y a pas eu de blessés et que l'alchimie s'est vite mise en place, les résultats suivent, et comme tout le monde nous prévient, par contre, c'est 2023, c'est le vrai test. 2022, c'est la grosse satisfaction. Et 2023, c'est là où on mesura la capacité à Cholet de s'inscrire sur la durée dans les résultats et de retrouver les hauteurs des années 2000.
La Coupe d'Europe, oui, avec à venir pour l'équipe choletaise. Alors même si Maury le disait, il n'y a pas une super Coupe d'Europe, mais quand même, les Choletais ont bien envie d'aller au bout de cette Coupe d'Europe. On a dit match face à Porto, match donc face à l'équipe qui va bien aussi dans son championnat, qui est leader du championnat du Portugal. Porto Cholet, c'est pour mercredi prochain. Les Choletais, on l'a dit, qui jouent face à Monaco à 18h dimanche. En Ligue féminine, vous noterez que Angers s'est imposé hier soir à la maison face à Toulouse 85-77 avec les 14 à l'évaluation pour Axel Merceron. Ah oui, Axel Merceron, c'est notre joueuse originaire d'Effre, la jeune pensionnaire de cet effectif de l'UFAB qui va bien. Hein, elle a marqué 11 points hier, 83% de réussite. Bien joué de la part de notre jeune Axel Merceron, notre De Sévrienne. On parle de basket également avec la Nationale 2. Ça va bien pour les Niortais qui passaient les fêtes au chaud. Hein. Ils s'étaient imposés juste avant la trêve. Eh bien, ils repartent en 2023 avec une victoire face à Montgaillard qui n'est plus ni moins que le leader de cette équipe, de ce championnat, pardon, de Nationale 2. Les Niortais de Laurent Hay qui s'imposent 89-77 et qui, allez, ont déjà quasiment assuré le maintien puisque on regardait 7 victoires et 6 défaites et les derniers n'ont qu'une victoire. Donc l'écart est quand même fait avec les équipes du bas de classement. Il va falloir aller chercher maintenant les premières places ou tout du moins se remettre sur les 5-6 premières places. En tout cas, belle perf pour les basketteurs niortais. Et puis en National 3 féminine, les Choraisiennes, qui ne peuvent espérer une montée mais qui veulent bien terminer la saison, se sont imposées hier soir à la maison face aux Herbiers. Victoire des filles de Christophe Poncharot qui a toujours un effectif qui est avec quelques blessés. Enfin, c'est pas simple pour lui de coacher avec cet effectif un peu brinque-ballant. Eh bien, les Choraisiennes se sont néanmoins imposées face aux Vendéennes 70-65. On parle de résultats de hand également avec une logique respectée, serait-on tenté de dire, en National 1, puisque le Montcoutantaise accueillait Pessac, leader de ce championnat, et les Girondines se sont imposées en terre de Sévrienne 30-22. Résultat de National 2 pour vous dire que les Celloises, l'équipe 2 de Celles-sur-Belle, va bien. 10 matchs, 10 victoires, carton plein, bien joué. Les Celloises qui se sont imposées à La Rochelle, nette victoire 36-20. On parle de cross avec les championnats départementaux qui vont s'ouvrir tout à l'heure à 11h30. Ça veut dire que les athlètes sont déjà en train de s'échauffer. Les premières courses féminines tout à l'heure, donc en fin de matinée. Et puis un cross long pour les garçons qui débutera, lui, à 15h15. Ce matin, en arrivant dans nos studios, eh bien, on s'est arrêté sur le site du Puy-Genet à Cerizay. On a rencontré Pascal Brosseau, le président du SBAC, qui nous parle de ce beau dimanche à venir. Un dimanche un peu pluvieux, un terrain un peu gras. Explication.
Alors hier soir, il y en avait 214, donc c'est un petit quota. On pensait arriver à 250, mais visiblement la météo a freiné pas mal les athlètes, d'autant plus que les championnats départementaux ne sont pas un passage obligé pour participer au quart de finale.
Sur ce très beau site du Puy-Genet, bon, la météo, on a forcément du terrain gras là.
Ah oui, j'ai rarement vu le parc aussi humide, donc je pense que là, ça va être très très gras et exigeant pour les athlètes.
On est forcément avec des pointes et je me posais la question, est-ce qu'on a des tailles de pointes différentes ?
Ah ben bien sûr, ça peut aller jusqu'à 15 mm. Donc là, il va falloir quasiment prendre du minimum du 12. Quoi.
C'est ton type de terrain ? C'est ton type de temps, ça, quand tu courais ?
Pas trop, non. Là, il est très très exigeant et vallonné avec beaucoup de relances, donc c'est un formidable parcours pour les spectateurs, très apprécié par certains coureurs, mais d'autres savent très bien à quoi s'attendre en venant à Puy-Genet, et ils aiment un peu moins.
Ouais. Bon, on a des favoris, évidemment. Je pense à Armand Marolo, par exemple.
Oui, si Jonathan Billot est là, je pense que c'est Jonathan qui devrait s'imposer sur le cross long. Armand fait un très bon début de saison, notamment avec sa performance sur la corrida de Courlet. Donc à voir, mais bon, comme je le dis, les départementaux pour les catégories jeunes, c'est très très bien, ça permet d'offrir normalement une compétition intéressante pour les jeunes, mais pour les plus vieux, c'est une compétition de reprise avant tout.
Ce serait quoi de bons championnats départementaux pour toi, Pascal ?
Bah, qui se déroulent sans problème particulier, pas facile à organiser, il y a des compétitions en salle en parallèle, notamment au Crêpes à Poitiers. Il y en avait qui ont couru à Rennes hier, donc ça disperse un peu les officiels. Donc on a un jury qui est très très juste. Alors j'espère que tout va bien fonctionner, que ça se passera au mieux. Et puis pour les athlètes qui trouvent vraiment du plaisir malgré la pluie, le mauvais temps annoncé. Mais bon, là il pleut actuellement, mais on espère des éclaircies pour cet après-midi.
Allez, début de la course, début de ces championnats départementaux, 11h30 tout à l'heure depuis le site du Puy-Genêt à Cerizay, et puis dernière course programmée, elle, à 15h15. Les échéances ensuite, après ces championnats départementaux, les quarts de finale, eux, se dérouleront le dernier week-end de janvier, ce sera à Ruel. La demi-finale, il faudra aller à Anglet, donc dans le Pays Basque, la demi-finale, comme celle organisée en 2022 sur le site de Bressuire. Et puis la grande finale, elle devrait être sympa, elle est programmée mi-mars, ce sera à Carhaix en Bretagne, sur le site des Vieilles Charrues. Sauf que là, il faudra dételer la charrue hein, pour cette finale. Et on rappelle que ce sera la troisième fois hein, que Carhaix recevra ses championnats de France. Et lors des deux précédentes éditions, il y avait eu pas moins de 30 000 spectateurs. Donc, une belle finale à venir. Mais auparavant, il faudra passer donc les échéances, alors certes de Cerizay, mais surtout de Ruel et Anglet, avant d'aller se mesurer lors de ces championnats de France en Bretagne mi-mars. On a une autre belle histoire à vous raconter, c'est celle des boucles de la Tourlanderie. C'est une course qui avait lieu hier dans la catégorie des Master 6. C'est la catégorie des plus de 60 ans. Accessite pour le Moléonais Philippe Beaumard, qui a porté haut les couleurs du groupe Moléonais. Faut pas y céder. 11 km, 1 heure, première place pour celui qu'on appelle le Kenyan blanc, Philippe Beaumard. Et sachez, pour cette petite histoire, et ça, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour organiser cette rencontre. Philippe Beaumard sur le Moléonais, on l'appelle Beaujo. Tout le temps Beaujo, si vous appelez, on ne sait pas si... Ben Beaujo, non, c'est Philippe Beaumard. Et la petite histoire, c'est qu'on l'appelle Beaujo en référence, non pas au Beaujolais, hein, loin de là, en référence à Christian Beaujo, le Cerizéen, l'ancien footballeur, l'ancien renard des surfaces du temps de Cholet, du temps du SO Cholet. Eh bien, ils avaient un peu le même parcours, c'est-à-dire qu'ils étaient souvent remplaçants. Alors, Philippe était du côté de Moléon, Christian à Cholet. Et quand Christian rentrait, il marquait souvent. Et Philippe Beaumard, à Moléon, c'était pareil. D'où le surnom Beaujo. Ça, c'est une sacrée belle histoire. C'est une petite anecdote croustillante qu'on avait envie de vous partager ce matin à l'occasion de ce premier SMD de l'année 2023. On termine avec la page rugby, puisque hier soir vous étiez peut-être au stade des Flandres, pour De Flandres à La Rochelle, les Rochelais qui ont vaincu le Cygne Indien et qui s'imposent enfin face à Toulouse. La très nette et belle victoire du stade Rochelais face au stade toulousain, 30 à 7, des Rochelais qui sont troisième, des Toulousains leaders de ce championnat. Un beau succès donc pour les Maritimes, et puis un mot de rugby également pour vous dire que le COP cet après-midi joue à 15h au stade de Métayer face à l'équipe de Poitiers. 10h48, on est plutôt pas mal. Je voudrais remercier devant vous, chers auditeurs, je voudrais remercier Hugo qui a œuvré pour la préparation de ce Sport Matin Dimanche. Peut-être que je me répète, hein, mais le sport sur Colline, et Colline tout simplement, c'est une vraie belle équipe. Et Hugo, vous avez été excellent dans ce Sport Matin Dimanche. Je vous en remercie.
C'est bien plus qu'une équipe. C'est